Bonjour Emmanuel, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins, on est ensemble jusqu'à 11h. Hey, you know what? Cette émission ne serait pas ce qu'elle est sans Tristan Grenassia, Géraldine Mosna-Savoie, Jules Salomon et Geneviève Méric, ni sans Angélique Thibault, cette semaine à la réalisation, avec aujourd'hui à ses côtés Clément Daté et Virginie Cassagne. À 10h50, vous retrouverez François Nudelman pour le journal de la philosophie qui recevra aujourd'hui Pierre-Emmanuel Doza, traducteur du livre de Tony Jute, Contre le vide moral, restaurons la social-démocratie, l'insoutenable légèreté du politique, paru aux éditions Héloïse d'Ormesson. Suite pour nous de notre semaine sur Épicure, le faux pourceau et le vrai jardinier, le contemplateur d'atomes et le contempteur des dieux. Après Jean Salem, venu hier nous parler des lettres d'Épicure, les rares textes qui ont été retrouvés parmi les centaines qu'il a composés, et avant d'évoquer la querelle entre stoïciens et épicuriens jeudi, et Montaigne, lecteur d'Épicure, demain mercredi, c'est aujourd'hui de Lucrèce que nous allons parler. Lucrèce qui, plus de 200 ans après la lettre à Hérodote, restitua en 6 livres et 7400 vers sa lecture d'Épicure. Mais que reste-t-il du philosophe en son jardin au fil de ce chant à la tonalité tragique ? Et pourquoi avoir remplacé les discussions d'Épicure par un geste poétique, un souffle haletant et apocalyptique, qui semble bien loin du calcul serein des plaisirs et des peines prônés par Épicure ? Une chose est sûre, Lucrèce refuse de se considérer comme autre chose qu'un simple disciple, et le poème s'ouvre sur un éloge adorateur du grand Épicure.
Alors qu'aux yeux de tous, l'humanité traînait honteusement le poids de la religion, dont le spectre flottant dans les régions célestes menaçait les mortels de son regard hideux. Le premier, un grec, un homme, un mortel, contre elle, osa lever les yeux, contre elle, se dresser. Rien ne put l'arrêter, les mythes ni la foudre, et ni les grondements menaçants du tonnerre. Tout cela ne faisait qu'exciter son désir de forcer le premier les portes du réel. Enfin, triomphant, il s'élança par l'esprit, loin au-delà des murs enflammés de ce monde, parcourant en pensée l'univers infini. Vainqueur, il nous apprend ce qui peut arriver et ce qui ne le peut. La puissance finie que possède chaque être et sa borne immuable. Voilà la religion à son tour terrassée, tandis que victorieux, nous montons jusqu'au ciel.
Bonjour André Comte-Sponville.
Bonjour.
Le miel et l'absinthe, c'est le très beau titre que vous avez donné à votre livre que vous consacrez à Lucrèce. Et donc à Lucrèce, lecteur d'Épicure. Le miel, c'est le poème que Lucrèce écrit. Et l'absinthe, c'est la vérité que ce poème essaye de faire passer sous une forme qui, elle, serait plus douce que ce que la vérité elle-même affirme. On a entendu cet éloge d'Épicure qui... Il y a des textes qui se situent à l'ouverture du chant de ce traité de Lucrèce. Pourquoi un tel éloge ? Pourquoi une telle admiration envers un homme, non seulement qu'il n'a pas connu, puisqu'il a vécu 200 ans plus tôt, mais dont il ne connaît presque rien ? Il y a très peu de textes d'Épicure disponibles.
Mais parce que, aux yeux de Lucrèce, Épicure est à la fois l'inventeur de la vérité, comme il dit, le découvreur de la vérité, et le libérateur de l'humanité, à la fois le guérisseur et le libérateur de l'humanité. Et pour Lucrèce, qui est de tempérament plutôt sombre et anxieux, on aura l'occasion d'en reparler, Épicure est le maître du bonheur. Or là-dessus, il a assurément raison, c'est-à-dire que de toutes les philosophies de l'Antiquité, l'épicurisme, tel qu'il est formulé par Épicure lui-même, est sans doute la philosophie la plus lumineuse, la plus sereine, la plus heureuse. Le paradoxe, c'est que les textes d'Épicure ayant pour une bonne part disparu, comme l'a rappelé Jean Salem lors de la précédente émission, notre source principale pour connaître la pensée lumineuse, sereine, heureuse d'Épicure, c'est l'un des poèmes les plus sombres et les plus tragiques de toute l'Antiquité. Parce qu'en effet, alors vous avez raison, là, le miel et l'absinthe, pourquoi ? C'est une métaphore qu'on trouve en effet chez Lucrèce. Lucrèce explique que la vérité de l'épicurisme, c'est-à-dire la vérité est amère, dit-il. Et si je la livre telle qu'elle aux hommes, ils ne vont pas vouloir l'avaler, c'est trop amer. Alors je fais comme le médecin, explique Lucrèce, qui, lorsqu'il veut faire avaler à un enfant la répugnante absinthe, absinthe qui à l'époque est un remède médicinal, mais qui a très mauvais goût. Alors pour faire avaler à l'enfant la répugnante absinthe, le médecin avait coutume d'enduire le bord de la coupe d'un peu de miel blond et sucré. Si bien que l'enfant sentant d'abord sur ses lèvres la douceur du miel, trompé par elle, dupe mais non victime, comme dit Lucrèce, avale le remède amer qu'est l'absinthe. Sauf que, en vérité, la vérité épicurienne n'est pas amère. Enfin, elle passe pour amère auprès des ignorants, parce que Épicure nous rappelle qu'on va mourir. Mais d'une part, ce n'est pas vraiment un scoop. D'autre part, comme il explique que la mort, c'est le néant, donc que la mort, c'est rien, il nous explique qu'il n'y a rien à craindre dans la mort. Donc la vérité épicurienne n'est qu'apparemment amère.
Alors donc, comment est-ce qu'il faut comprendre cela ? Alors, est-ce que Lucrèce aurait mal lu Épicure ? Ou est-ce que c'est la vérité selon Lucrèce ?
À travers son tempérament. Mais en vérité, ce qu'il y a d'amère, c'est la poésie lucrécienne. Et donc, le prétendument doux miel poétique, alors il est doux par sa beauté, mais il est très amer par les affects qu'il véhicule. Si bien qu'on pourrait dire aussi bien l'inverse, douceur de la vérité, amertume de la poésie, c'est-à-dire amertume de l'imaginaire, amertume de la sensibilité. Et c'est ça qui est tellement émouvant chez Lucrèce, c'est que ce disciple absolument orthodoxe, pour ce qui est des concepts, pour ce qui est de la pensée, reste malgré tout prisonnier, mais en un sens heureusement pour nous, d'une sensibilité qui précédait de très loin sa conversion à l'épicurisme et qui explique quoi ? Qui nous permet de comprendre qu'au fond, Épicure était un sage, un génie sans doute, mais aussi un sage. Lucrèce est un génie aussi, mais n'est pas un sage. Lucrèce n'est qu'un philosophe, c'est-à-dire un apprenti en sagesse. Lucrèce n'est qu'un poète, Lucrèce n'est qu'un homme, et c'est pourquoi Lucrèce est tellement plus proche de nous qu'Épicure, et en ce sens tellement plus émouvant que son maître vénéré.
Mais alors ce passage d'un côté de la pensée d'Épicure, qui elle est écrit de toute évidence en prose, il ne s'agit pas de poème, au poème justement, au choix de la forme poétique par Lucrèce. Alors, vous l'avez dit, la vérité amère, ce n'est pas celle d'Épicure, puisqu'Épicure, on l'a vu hier avec Jean Salem, hein, prône ce calcul des plaisirs et des peines qui, lui seul, peut conduire à cette forme de sérénité d'âme qui nous permet de nous tenir le plus loin possible de toute forme de douleur et donc d'atteindre une forme de bonheur, dont les dieux nous renvoient une image, hein, une image d'un bonheur possible et atteignable. Dans ce cas, si cette vérité amère n'est pas celle d'Épicure et que Lucrèce lui-même change la forme, puisqu'il choisit la forme poétique, alors que reste-t-il d'Épicure ? Vous dites, Lucrèce est un fervent disciple d'Épicure, mais que reste-t-il d'Épicure s'il change la vérité, le fond et la forme ?
Non, il ne change pas le fond conceptuel. Il n'y a pas une seule thèse lucrécienne qui ne soit pas soit chez Épicure de façon avérée, soit en tout cas attestée dans l'épicurisme. Si on pense au clinamen, on en reparlera tout à l'heure. Lucrèce n'innove absolument en rien, ni pour ce qui est des concepts, ni pour ce qui est des arguments, ni pour ce qui est des démonstrations. Il n'y a pas de disciple plus fidèle, plus orthodoxe, je dirais presque plus dogmatique que Lucrèce. La différence de fond, ce n'est pas une différence conceptuelle, c'est une différence de sensibilité. Ah mais voilà, mais ça c'est très intéressant, c'est qu'on a beau se convertir à une doctrine, adopter de nouveaux concepts, on ne se guérit pas de soi, comme dira beaucoup plus tard Jean-Paul Sartre. Eh bien voilà, Lucrèce s'est converti à l'épicurisme, mais ne s'est pas guéri de lui-même. Or lui-même, c'était quoi ? C'était un être mélancolique, sombre, anxieux. Alors sans doute que l'épicurisme lui a fait du bien. Il ne s'agit pas non plus d'en rajouter trop sur la mélancolie lucrécienne. Mais malgré tout, ce qui est très frappant, c'est qu'il va dire, par exemple, sur la mort. Et Épicure nous dit, la mort n'est rien pour nous. Puisque tant que nous sommes vivants, la mort n'est pas là. Et quand la mort est là, c'est nous qui n'y sommes plus. Lucrèce dit exactement la même chose. Il n'y a pas l'ombre d'une différence philosophique. Sauf que dans le livre 3, où il y a des centaines de vers sur la mort, eh bien, on voit bien que d'accord, la mort n'est rien pour nous, mais malgré tout, mourir, on préférerait pas, si vous voulez. Voilà. Et il y a cette dimension tragique chez Lucrèce qu'il n'y a pas chez Épicure. Comme l'a très bien dit Clément Rosset, dont la lecture de Lucrèce, par ailleurs, est parfois discutable, mais il y a au moins un point où Clément Rosset a mis le doigt sur quelque chose d'important. Il écrit « Lucrèce est un penseur tragique, ce qu'Épicure n'était pas ».
L'ensemble du poème se présente comme le fruit d'une jubilation négatrice, ivre de tout ce dont elle se débarrasse, de tout ce qu'elle nie et réfute. Sorte d'extase antiphilosophique qui évacue toutes les significations et l'idée même que les significations aient un sens. Aux yeux de la pensée tragique, Lucrèce apparaît ainsi comme le philosophe par excellence, l'un des rares anti-idéologues sans restriction mentale, penseur d'aucune idée, pas même celle de nature, visionnaire du rien, auditeur du silence. André Comte-Sponville, c'est un texte magnifique que Clément Rosset écrit sur Lucrèce, hein, qu'on trouve dans son texte « Logique du pire », où il fait de Lucrèce, justement, parce qu'il n'est pas conceptuel, parce qu'il se sert de la forme poétique pour exprimer ce qu'il a à dire, le philosophe par excellence, visionnaire du rien, auditeur du silence.
Oui, c'est beau comme du Clément Rosset, j'aime beaucoup Clément Rosset, qui est un ami, mais d'évidence, c'est faux. Parce que Lucrèce n'est pas le penseur d'aucune idée, il est le penseur de toutes les idées d'Épicure. Là, Clément exagère considérablement la différence entre Épicure et Lucrèce. De même dire que chez Lucrèce, l'idée de nature ne joue aucun rôle, c'est quand même un peu fort de café. En revanche, là où Clément Rosset a raison, c'est de dire, en effet, je le rappelais à l'instant, que Lucrèce est un auteur tragique, ce qu'Épicure n'était pas. Alors si on revient maintenant... Donc, résumons, aucune différence conceptuelle, une grande différence de sensibilité. Troisième paradoxe, la poésie. C'est que Épicure n'aimait pas la poésie, du moins poussait ses disciples à se méfier de la poésie, sans doute parce qu'à ses yeux, elle était trop liée à la mythologie, donc à la superstition et en général aux illusions de l'imaginaire. Or, le plus grand disciple d'Épicure est un poète, génial poète. Le plus grand exposé qu'on ait gardé de l'épicurisme est écrit en hexamètre dactylique, donc en vers, et qui plus est, le grand vers de l'épopée romaine, si c'est l'équivalent de notre alexandrin, si vous voulez. Alors pourquoi est-ce que Lucrèce a choisi de procéder ainsi? Sans doute, en effet, en partie pour la raison qu'il dit, c'est-à-dire faire avaler au public, grâce à la beauté de ses vers, une vérité philosophique qui laissait les gens souvent un petit peu réticents. Sans doute aussi parce qu'il est poète et parce qu'il aime la poésie. Et quand il décrit notamment les rêves, il explique qu'il lui arrive de rêver, qu'il est en train d'écrire des poèmes, si vous voulez. Donc Lucrèce est absolument poète, intégralement poète, et donc naturellement, spontanément, quand il s'est agi de rédiger l'épicurie, de créer cette espèce de manuel de l'épicurisme, il l'a fait tout naturellement de son point de vue en vers, et c'est une grande chance pour nous, d'abord parce que c'est une beauté admirable, mais aussi parce que c'est sans doute ce qui a sauvé le De Rerum Natura, parce qu'il faut rappeler que...
C'est le titre du chant de Lucrèce.
Quelques 300 livres d'Diogène Laërce, dont un Périphuséos sur la nature en 37 livres, il nous est resté que trois lettres et quelques maximes, parce que les bons moines, qui pendant tout le Moyen-Âge ont recopié à la main les manuscrits des auteurs grecs et latins, grâce à qui nous avons gardé ces œuvres, ils ont préféré recopier les œuvres d'auteurs compatibles avec la religion. Platon, Aristote, les stoïciens, ça allait encore, mais cet auteur hédoniste qui célébrait le plaisir, les atomes et qui renvoyait les dieux dans leur éloignement impuissant, si l'on peut dire, c'était un peu difficile pour un moine de le recopier. Si bien que d'Épicure, ils n'ont pratiquement rien recopié. Et de Lucrèce, on a gardé deux manuscrits du Moyen-Âge. Et c'est à ces deux manuscrits qu'on doit la chance de pouvoir aujourd'hui avoir cet accès incomparable à l'épicurisme. Et si les moines ont recopié ces manuscrits de Lucrèce, sans doute, ça n'était pas à cause du fond philosophique, sinon ils auraient recopié aussi bien les textes en prose d'Épicure, mais c'est parce qu'ils étaient sensibles à l'incroyable beauté de sa poésie. Si bien que ça fait une autre raison que sans doute Lucrèce n'avait pas prévue, mais avoir écrit en vers, ça a aussi sauvé l'existence même dans sa matérialité de son œuvre.
Vous avez employé le terme tragique pour qualifier le poème de Lucrèce et même la pensée de Lucrèce elle-même. Dans tragique, il faut l'entendre au sens fort, c'est-à-dire le tragique, et c'est ce qu'il reste de la vie quand on la dépouille de toute forme de transcendance, de sens, et qu'on est dans une forme d'immanence matérialiste qui est celle d'Épicure, puisque si le monde est composé d'atomes qui se meuvent eux-mêmes, il n'y a pas de premier mouvement, de cause initiale au mouvement, ni même à la création du monde dans lequel nous vivons, alors il n'y a aucune direction, aucun destin, aucun sens, et ce que nous nommons les dieux, n'ont atteint ce statut-là que par hasard, finalement. Ils ne sont pas vraiment transcendants et ils jouent un rôle pour nous de guide de vie. Ils nous proposent une image du bonheur qui nous laisse penser que nous pouvons être heureux et donc nous conduit nous-mêmes à atteindre ce bonheur-là. Quand on présente ainsi Lucrèce, il n'est pas si éloigné d'Épicure. Vous avez dit que c'est une différence de sensibilité. Lucrèce tire des conclusions extrêmement mélancoliques et même apocalyptiques de ce que Épicure dit par ailleurs, alors qu'Épicure, lui, conclut plutôt vers quelque chose qui nous conduirait à la joie. Mais là, c'est pas uniquement une question de sensibilité. Le tragique, c'est ce qui est même à l'essence même, à l'origine même de la pensée d'Épicure.
Non, ce qu'il y a de commun aux deux, c'est effectivement l'immanence et l'impermanence, comme on dirait dans l'Orient bouddhiste. C'est l'idée que ce monde n'est pas éternel, qu'il aura une fin, que les dieux ne s'occupent pas de nous. Et là, bien sûr, Lucrèce est parfaitement d'accord avec Épicure sur tous ces points. Mais le tragique, c'est autre chose. C'est l'idée, au fond, que le salut est hors d'atteindre. Épicure, tout matérialiste qu'il soit, tout convaincu, évidemment, qu'on va tous mourir et qu'il n'y a rien après la mort, c'est le béaba du matérialisme, malgré tout, explique qu'on peut se sauver, c'est-à-dire atteindre un bonheur inexpugnable. Et c'est le sens de la fin de la lettre à Ménécée d'Épicure. Si tu médites jour et nuit les maximes que je t'ai enseignées, alors tu vivras comme un dieu parmi les hommes. Car il n'a plus rien de commun avec un être mortel, celui qui vit parmi les biens immortel. Voilà. Et cette dimension vive comme un dieu parmi les hommes, ça n'est pas une transcendance, mais c'est bien un salut. Alors que ce que j'entends chez Lucrèce, et c'est ça que j'appelle le tragique, c'est l'impossibilité du salut. Vivre comme un dieu parmi les hommes, ça serait formidable. Il y a un seul problème, c'est qu'on n'y arrive pas. Alors peut-être qu'Épicure y est arrivé, mais Lucrèce n'y arrive pas, pour tout vous dire, moi non plus. Et c'est pourquoi Lucrèce est tellement chère à mon cœur.
Une crainte me vient. Peut-être vas-tu croire que je veux t'initier à quelque dogme impie, t'ouvrir la voie du crime. Au contraire, souvent, c'est la superstition qui devient criminelle. C'est ainsi qu'Aulis, sur l'autel d'Artémis, le sang d'Iphigénie atrocement coula, par la faute des chefs grecs, la fleur des guerriers. Dès que sa tête pure eut coiffé le bandeau, dont les larges rubans lui caressaient les joues, elle aperçut son père accablé de douleur, le prêtre à son côté cachant son long couteau, et le peuple à sa vue qui se met à pleurer. Muette de terreur, elle ploie, elle tombe. Malheureuse, que lui servait alors d'avoir la première donnée au roi le nom de père? Des mains d'hommes sur elle effrayantes se posent. La porte à l'autel, non pour s'y marier. Hélas, non pour le rite et les chants de la noce, mais pour y mourir vierge, assassinée à l'âge même du mariage, immolée par son père, au départ des vaisseaux, à la faveur des dieux, tant la religion fut féconde en horreur.
André Comte-Sponville, ce texte du sacrifice d'Iphigénie se trouve également en ouverture, au tout début du traité de la nature de Lucrèce. Le texte a été interprété par Jean-Louis Jacopin et traduit par vous-même. André Comte-Sponville, c'était votre traduction. Il donne à entendre ce refus, et le terme est faible, hein, ce refus, ce rejet de la religion, qui était déjà présent chez Épicure, mais Lucrèce y ajoute une dimension de fureur indéniable. Pourquoi s'en prend-il à ce point, à la religion? Qu'est-ce que la religion, non seulement n'apporte pas à l'homme, mais en plus lui enlève, visiblement, qui le rend si malheureux?
Alors d'abord, un mot, moi, je suis très content d'entendre ces vers si bien lus par votre comédien, parce qu'en effet, c'est une traduction que j'ai proposée dans mon livre. Comme Lucrèce est poète, j'ai voulu le traduire en vers, donc c'est une traduction en alexandrin blanc, sans rime, mais en alexandrin. Et c'est la première fois que je l'entends lu par un autre que moi, et j'avoue que ça me fait plaisir. Alors, pourquoi cette hargne anti-religieuse? Et là encore, c'est un petit peu une surprise, parce que non seulement Épicure n'était pas athée, il pensait que les dieux existaient, mais loin, dans les intermondes, qu'ils ne s'occupaient pas de nous, mais il était même en un sens pieux, c'est-à-dire que les dieux offraient une image de sagesse, une image de bonheur qui pouvait nous aider à avancer malgré tout. Il n'y a pas dans les textes qu'on a gardés d'Épicure cette violence irreligieuse, voire anti-religieuse, alors qu'elle existe chez Lucrèce. Pourquoi? Sans doute parce qu'il est davantage sensible qu'Épicure, et puis dire que l'époque n'est pas la même, aux crimes innombrables des religions, en l'occurrence du polythéisme grec, s'agissant du sacrifice d'Iphigénie, à la bêtise de la superstition et surtout à la souffrance, aux angoisses que la superstition entraîne. Le paradoxe, au fond, de la religion vue par Lucrèce, c'est que les hommes inventent des dieux pour se rassurer, parce qu'ils ont peur de la foudre, ils ont peur de la nature. En général, ils ont peur de mourir. Ils inventent des dieux pour se rassurer et paradoxalement, ces dieux sont encore plus effrayants que cette nature dont ils seraient censés nous protéger. Et donc Lucrèce, justement parce qu'il est très sensible à l'angoisse, combat avant tout la peur. Et comme les dieux sont effrayants, vous savez la belle formule de Rilke, tout ange est effrayant. Eh bien, Lucrèce pourrait dire aussi bien tout dieu est effrayant. Et c'est parce que la religion est mortifère, parce que la religion est effrayante, parce que la religion en rajoute encore au malheur des hommes que Lucrèce combat la religion.
Mais est-ce qu'il propose une alternative à ce besoin auquel répond la religion, puisqu'il l'explique bien, la raison pour laquelle les hommes postulent l'existence de Dieu, Dieu au pluriel, hein, et ont recours à cette forme de religiosité qui leur permet de célébrer ces dieux-là, c'est parce qu'eux-mêmes ignorent les causes qui les déterminent. Ils ont besoin de nommer, de cerner, de désigner une origine, un créateur du monde pour pouvoir expliquer, rendre raison de leur existence humaine, puisqu'ils ne sont pas prêts à accepter le tragique de l'existence dont nous parlions juste avant. Qu'est-ce que Lucrèce propose et propose-t-il? Un substitut, un palliatif, quelque chose qui permettent à l'homme, malgré tout, de pouvoir arriver à accepter le fait que l'existence humaine n'ait aucun sens.
Il propose deux choses contre l'ignorance des causes. Et là, Lucrèce est très proche du Spinoza, de l'appendice du livre 1 de l'éthique, si vous voulez, qui explique de même la superstition par l'ignorance des causes et le besoin, au fond, d'être rassuré. Alors, contre l'ignorance des causes, Lucrèce propose quoi? Évidemment, il propose la connaissance des causes, c'est-à-dire l'épicurisme, et spécialement la physique épicurienne. Parce qu'enfin, il faut rappeler que la très grosse majorité du De Rerum Natura, donc le livre de Lucrèce, de la nature des choses, est consacré non pas à la physique, non pas à la tragédie de l'existence humaine, mais tout simplement à la physique.
Alors les vraies
causes, ce sont
dire.
Les atomes. Voilà. Tout s'explique par l'infinité d'atomes dans un vide infini qui se rencontrent au hasard. On pourra en reparler notamment à propos du clinamen. Et donc il n'y a de sens nulle part, mais la connaissance des causes, on peut la trouver. Alors, en général, on ne peut pas expliquer en particulier pourquoi la foudre est tombée sur tel endroit, mais en vérité, il n'y a pas de raison, c'est le hasard. Mais on peut expliquer ce que c'est que la foudre, pourquoi la foudre. Et si on ne sait pas exactement, on peut proposer plusieurs hypothèses, comme fait volontiers Lucrèce, comme faisait aussi Épicure. L'important n'est pas de connaître la cause véritable de tel phénomène, mais de comprendre que de toute façon, il y a une cause naturelle. Bref, dans la foudre, pour garder cet exemple, il n'y a rien de surnaturel. Et deuxième alternative, comme ce qu'on risque de... Au pire, c'est de mourir. L'alternative, à nouveau, c'est l'épicurisme. Et l'épicurisme considéré plutôt cette fois quant à la condition humaine, puisque la mort n'est rien, il n'y a rien à en craindre. Si bien que la foudre, pour garder cet exemple, est un exemple privilégié auquel Lucrèce consacre de très longs passages, parce que la foudre, pour les anciens, c'est l'arme de Zeus. Et donc, c'est typiquement le phénomène naturel, comment dire, entièrement bouffi de superstition. Eh bien voilà, la foudre, elle a des causes, comme tout le reste, des causes naturelles. Tout ça, c'est des atomes et du vide. Et donc, il n'y a pas lieu de lui prêter un sens. C'est insignifiant. Voilà, la foudre est, au sens littéral du terme, non signifiante, insignifiante. Et puis, qu'est-ce que tu risques ? Au pire, tu risques de mourir. Mais d'une part, tu mourras de toute façon. Soit par la foudre ou par la peste ou de vieillesse, tu n'en mourras ni plus ni moins. Et d'autre part, comme la mort n'est rien, il n'y a rien à en craindre. C'est bien que solidement ancré sur la physique épicurienne, et je dirais, si on peut dire, même si le mot n'existe pas dans les textes, sur la métaphysique épicurienne, l'idée qu'il n'y a rien après la mort, Lucrèce pense nous rassurer. Et en effet, il nous rassure pour une part, mais pour une part seulement, parce que quand vous êtes sous la foudre, et j'imagine que Lucrèce a dû voir la chose, parce qu'il en parle avec, on sent bien, comme s'il en parlait d'expérience, ça n'empêche pas d'avoir peur. Et ça, c'est très intéressant. C'est qu'on peut être parfaitement d'accord avec Lucrèce, et aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur ce point. Alors, non pas sur l'explication physique que Lucrèce, ou les explications que Lucrèce propose de la foudre, mais sur le fait que dans la foudre, il n'y a rien de surnaturel, que ce sont de purs phénomènes physiques normaux. Beaucoup d'entre nous sommes d'accord avec Lucrèce pour penser que la mort n'est rien. Et malgré tout, quand la foudre tombe près de vous, on a peur. Et ça, c'est intéressant, parce que pour une part, c'est l'échec de la philosophie. Et finalement, le vrai secret du tragique, me semble-t-il, c'est ça. C'est qu'une philosophie tragique, c'est une philosophie qui constate l'échec de la philosophie. C'est donc la philosophie vraie, parce que ceux qui n'ont pas constaté cet échec, c'est-à-dire les philosophes dogmatiques, optimistes, comme était Épicure, que je vénère par ailleurs, mais qui est malgré tout un philosophe optimiste et dogmatique, sont passés à côté de la vérité de la philosophie. Et c'est pour ça que Montaigne aimera tellement Lucrèce, parce qu'il partage avec lui cette singularité, sauf que Montaigne, lui, le dit expressément, alors que Lucrèce ne l'a jamais dit comme ça. De ce point de vue, ce que j'ai dit sur Lucrèce, c'est aussi mon interprétation de Lucrèce. Et Montaigne le dira plus ouvertement, la philosophie échoue. Et ça fait partie de son essence. Ça n'est pas une raison pour ne plus faire de philosophie, mais c'est une raison pour faire de la philosophie autrement.
Vous faites un bon effet d'annonce pardon, pour l'émission de demain, André Comte-Sponville, puisque c'est avec vous. Vous reviendrez nous parler de Montaigne comme lecteur d'Épicure. Vous avez rappelé juste avant l'importance de la physique chez Lucrèce et chez Épicure. La physique comme fondement de l'éthique, par ailleurs l'éthique qui est plus connue, mais la physique elle-même. Et ce qu'il faut connaître en vue d'atteindre à ce comportement, cette attitude, cette éthique que prône Épicure, puisqu'il écrit bien que c'est en connaissant le monde et les astres célestes, il ne distingue pas les deux, que nous pouvons trouver les conditions pour atteindre cette ataraxie, c'est-à-dire cette suspension de toute forme de douleur. Il y a un texte qui est peut-être le plus connu de Lucrèce et qu'on cite souvent lorsqu'on entend parler de Lucrèce, c'est celui dit du clinamen, c'est-à-dire le texte qui va expliquer comment se fait-il que des atomes qui suivent des lois qui leur sont inhérentes, à savoir la loi de la gravité, on peut dire, la loi de la vitesse, la loi qui ont chacun un poids, une vitesse, comment se fait-il que ces atomes puissent se rencontrer et former des corps ? Il est intéressant de constater que lorsqu'il réfléchit à cela, Lucrèce semble en appeler à l'éthique. Et il procède par une preuve par l'absurde, ce qui est toujours le procédé qu'il met en œuvre, comme Épicure, par modus tollens, c'est-à-dire on démontre l'existence de quelque chose en démontrant l'absurdité de sa non-existence. Et il semble qu'il prouve l'existence de ce clinamen, cette déviation des atomes, en appelant au constat de la liberté humaine. Et c'est très surprenant d'entendre qu'il procède ainsi. Je vous propose d'écouter le texte tout de suite et puis vous réagirez dessus.
Pendant qu'ils tombent droit, entraînés dans le vide, par leur poids en un lieu et un moment quelconque, les atomes dévient, mais très peu, juste assez, pour que leur mouvement puisse être dit changé. S'ils ne déviaient ainsi, tous tomberaient tout droit, comme gouttes de pluie dans le vide sans fond. Il n'y aurait entre eux ni rencontre ni choc, la nature jamais n'aurait rien pu créer. Peut-être penses-tu que les corps les plus lourds tombent aussi plus vite, y compris dans le vide, qu'ils rattrapent ainsi les corps les plus légers, faisant naître ces chocs d'où toutes choses naissent. C'est écarté bien loin de la droite raison. À travers l'eau ou l'air, certes, tout ce qui tombe ira plus ou moins vite en fonction de son poids. C'est que les masses d'eau et même l'air subtil ne peuvent retarder autant toutes les chutes. Vaincus, ils céderont plus vite aux corps plus lourds. Mais en aucun endroit, mais à aucun moment, le vide ne saurait se trouver sous un corps sans céder aussitôt. C'est sa nature propre. Ainsi, je le répète, il faut que les atomes dévient un peu, mais pas plus que le minimum. Pas question d'inventer un mouvement oblique. Enfin, si toujours tous les mouvements sont liés, s'ils se succèdent tous dans un ordre inflexible, si, par leur déviation, les atomes ne font un premier mouvement qui brise le destin, rompant la succession indéfinie des causes, d'où vient la liberté dont les vivants jouissent ? D'où vient la volonté qui s'arrache au destin, qui nous fait avancer où le plaisir nous mène, en déviant, nous aussi, n'importe quand, n'importe où, suivant l'impulsion de notre seul esprit ? Car tout cela, c'est sûr, vient de la volonté, d'où chaque mouvement se répand dans nos membres.
André Comte-Sponville, il faut que les atomes dévient un peu, mais pas plus que le minimum, pas question d'inventer un mouvement oblique. Lorsque Lucrèce écrit ça, il semble à la fois proposer cette solution, l'explication au fait que les atomes se rencontrent, et en même temps refuser l'appellation. Il dit que ce n'est pas un mouvement oblique.
Oui, parce qu'un mouvement qui s'écarte de la verticale, nec plus quoi minimum, pas plus que le minimum. Si vous le voyez devant vous, vous ne direz pas c'est un mouvement oblique, vous direz c'est un mouvement vertical, parce que la différence est tellement faible, elle n'est pas infiniment petite, mais elle est tellement faible qu'elle est imperceptible. Il ne faut pas imaginer que les atomes vont partir à 45 degrés. Mais venons-en au fond. Pourquoi cette curieuse théorie du clinamen, qui n'est attestée dans aucun texte conservé d'Épicure, mais qui est attestée en grec, sous son nom grec de parenclisis, dans des textes contemporains de Lucrèce. Donc on sait bien que ce n'est pas Lucrèce qui l'a inventé, contrairement à ce qu'ont prétendu certains auteurs. Pourquoi cette théorie de la déclinaison ou de la déviation des atomes? Essentiellement pour deux raisons. C'est que les atomes tombent dans le vide infini. Ils tombent en vertu de leur poids, non pas d'une gravitation, d'une attraction, mais pour Épicure, en vertu de leur poids propre. Ils tombent comment? Ils tombent verticalement. Et donc, ils tombent tous parallèlement. Et si les atomes tombent tous parallèlement, comme des gouttes de pluie, eh bien, ils ne vont jamais se rencontrer. Quand vous êtes sous la pluie, vous ne recevez jamais 1000 gouttes d'eau agglomérées. Vous recevez les gouttes d'eau séparément. Or, nous savons bien que les atomes se sont rencontrés, puisque notre monde existe. Notre monde n'existerait pas si les atomes avaient continué à tomber en pluie. Et donc, il faut bien, pour expliquer l'existence du monde, de notre monde, expliquer l'existence de corps composés, il faut bien que les atomes se soient rencontrés à un moment ou à un autre. Et comme s'ils tombaient verticalement, ils ne se rencontreraient jamais, on est obligé de penser qu'à un certain moment, ils dévient. Alors très peu, ce n'est pas 30 degrés ou 40 degrés, très peu, pas plus que le minimum, mais assez malgré tout pour qu'un atome en cogne un autre, il y aura un rebond, il va partir dans une autre direction, il rencontrera d'autres atomes, autres rebonds, et c'est ainsi que les atomes vont finir par se rencontrer et par former des corps composés. Donc ça prouve, c'est le premier temps de la démonstration de Lucrèce, ça prouve qu'il y a déviation. Mais pourquoi cette déviation est-elle dite par Lucrèce indéterminée dans l'espace et dans le temps? Ce qui est très intéressant, c'est l'une des premières formulations qu'on trouve de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'indéterminisme microphysique. Pourquoi est-elle indéterminée? Parce que nous sommes libres. Et Lucrèce s'appuie donc sur deux expériences pour lui évidentes. Le monde existe, c'est incontestable, donc les atomes dévient. Nous sommes libres, c'est incontestable, donc il y a dans les atomes qui nous composent quelque chose, une puissance indéterminée qui est à l'origine de la liberté, pas seulement humaine, mais de toute liberté, puisque pour Lucrèce, pour Épicure, les animaux sont libres aussi. Alors attention, cette liberté, ce n'est pas un libre arbitre métaphysique comme on verra chez Descartes, chez Kant ou chez Jean-Paul Sartre. Non, non, c'est un pouvoir de déviation. Declinamus item motus, dit Lucrèce. Nous pouvons, nous aussi, changer de mouvement. Ça veut dire que vous avez le pouvoir de quitter ce studio si ce que je vous dis vous agace. Ça n'est pas une liberté absolue, ça reste soumis à des causes. C'est parce que ce que j'aurais dit vous aura agacé, vous avez oublié un rendez-vous, que sais-je. Ça n'est pas un indéterminisme total, ça n'est pas une contingence, c'est un indéterminisme partiel, limité, c'est une nécessité émiettée, c'est une nécessité atomisée. Et j'aime beaucoup que Lucrèce soit l'un des premiers penseurs, mais enfin, les Épicuriens en général et Lucrèce en particulier, à penser une liberté qui n'est pas un libre arbitre absolu, mais qui nous permet d'échapper à ce qu'Épicure appelait le destin des physiciens, c'est-à-dire d'échapper au fatalisme. Le matérialisme épicurien, ça n'est pas un matérialisme fataliste, c'est au contraire ce que mon maître et ami Louis Althusser appellera beaucoup plus tard un matérialisme de l'aléatoire. Il y a de l'aléatoire, puisque les atomes dévient n'importe où, n'importe quand. C'est un matérialisme de l'aléatoire, et pour cette raison même, c'est aussi un matérialisme de la liberté.
Mais alors peut-on dire que chez Lucrèce et chez Épicure, liberté et hasard sont synonymes, puisque vous employez, vous dites et vous parlez d'aléatoire, de hasard, de liberté. Finalement, à bien suivre ce que dit Lucrèce, on pourrait très bien dire que ce qu'il nomme liberté n'est que l'ignorance des causes qui nous déterminent, dans une vision beaucoup plus spinoziste, mais il me semble que ce n'est pas absurde de s'interroger sur le sens du maintien de cette distinction entre nécessité et liberté.
Ça n'est pas absurde et c'est un vrai choix, moi qui ai beaucoup travaillé sur l'un et sur l'autre, sur Lucrèce comme sur Spinoza, que de savoir lequel a raison. Lucrèce vous dirait, et je vous dirais volontiers aussi, sincèrement, croyez-vous qu'il y a 10 milliards d'années, notre présence dans ce studio ici et maintenant était prédéterminée, de telle sorte que si nous avions connu l'état complet de la nature il y a 10 milliards d'années, nous aurions pu prévoir qu'aujourd'hui, nous ferions une émission sur
Lucrèce. Non, mais la détermination n'est pas forcément de la prédétermination.
Elle l'est pour Spinoza, elle l'est s'il y a une chaîne continue de causes. Et c'est pourquoi il y a un fatalisme spinoziste qui est un vrai problème, puisque du même coup, la liberté ne sera plus que la connaissance de la nécessité. La raison est libre, mais l'action, dès lors qu'elle échappe à la raison, ne l'est jamais. Alors que ce que Lucrèce nous permet de penser, ça n'est pas une chaîne continue de causes, c'est une chaîne discontinue de causes. Or, il me semble qu'ici, il est au plus près à la fois de notre expérience. Nous savons bien, vous comme moi, que si nous sommes ensemble en ce moment, ça n'est pas par un acte d'absolue liberté, que nous sommes conditionnés par un certain nombre de causes, mais personne ne peut croire, me semble-t-il, que ces causes sont continues depuis 10
milliards d'années. Non, mais ce que vous dites, c'est la même chose, dit de deux points de vue différents. Spinoza se place du point de vue de la raison et Lucrèce se place du point de vue de l'expérience, mais les deux ne sont pas contradictoires. Lucrèce rend justice à notre expérience et donc il maintient ce terme de liberté parce que nous nous jugeons libres justement de lever le bras, quitter le studio, faire autre chose. Spinoza dit oui, nous nous jugeons libres, mais cette liberté-là, en réalité, n'est qu'un enchaînement de causes qui nous échappe.
C'est ce que dit Spinoza.
C'est la même chose.
Et non, non, parce que Lucrèce ne dit pas nous nous jugeons libres, Lucrèce dit nous sommes libres. Ça n'est pas du tout la même chose. Pour Spinoza, le libre-arbitre est une illusion. Alors, c'est aussi parce qu'il prend libre-arbitre au sens de Descartes comme un pouvoir absolument détaché de toute causalité. Mais pour Spinoza, c'est une illusion. Pour Lucrèce, ça n'est pas du tout une illusion. Je suis vraiment libre de venir dans ce studio ou pas, de quitter ce studio à tel ou tel moment. Il y a donc une spontanéité. Mais encore une fois, ça n'est pas une contingence. Et c'est pour ça que Lucrèce et Spinoza sont à la fois proches sans avoir les mêmes positions. Ils ont en commun de récuser l'un et l'autre l'idée d'une contingence absolue. Rien n'existe sans cause. Rien ne naît de rien, dit Lucrèce bien avant Spinoza. Ils récusent donc l'idée d'un libre arbitre absolu. Mais en vérité, chez les anciens, personne ne croit en un libre-arbitre absolu. Les anciens croient en une spontanéité du vouloir. Les anciens croient en l'autonomie de la raison. Les anciens croient en la volonté. Ils ne croient pas en un libre-arbitre absolu. Donc voilà, Lucrèce, comme Spinoza, pense que rien ne naît sans cause. La différence, c'est que pour Spinoza, les chaînes de causes sont continues, sans interruption, jamais. Et que donc le nécessitarisme spinoziste exclut toute liberté de la volonté. Alors que Lucrèce, pensant au contraire que les chaînes de causes, certes, existent, mais sont discontinues, il arrive à penser, non pas encore une fois, un libre arbitre absolu, mais une volonté relativement libre. Voilà. Il y a en nous, dit Lucrèce, le pouvoir de résister, le pouvoir de lutter. Nous sommes aussi causes, et cette spontanéité du vouloir, voilà ce qui existe clairement chez Lucrèce et qui n'existe pas aussi clairement chez Spinoza, non pas qu'il n'y ait pas de spontanéité du vouloir chez Spinoza, mais au sens où la spontanéité du vouloir s'explique toujours chez Spinoza par des causes qui la précèdent. Grâce au clinamen, il y a en nous une spontanéité du pouvoir qui, au moins à certains moments, ne s'explique par aucune cause qui la précède, mais simplement par la force du désir. Vis cupidam, dit Lucrèce, la force du désir. Et cette liberté-là, qui est vraie aussi chez les animaux. Autre différence avec Spinoza, ce n'est pas la liberté de la raison, c'est la liberté d'agir. C'est une donnée d'expérience que Spinoza pense comme illusion, que Lucrèce pense comme vérité.
Mais on ne peut pas maintenir cela sans postuler par ailleurs la présence d'un dualisme. Il faut rompre avec le matérialisme qui est celui des atomes et du monde physique dans lequel nous vivons, puisque le clinamen introduit une forme de principe spirituel qui nous permet d'interrompre la causalité pour agir de manière spontanée.
Pas. C'est ce que disait Nizan, mais dans un très beau livre. Enfin, sur ce point, il a évidemment tort. Le clinamen n'introduit aucun libre arbitre, aucune spiritualité. C'est une force purement matérielle. Et c'est la différence entre le hasard et la liberté. C'est que l'atome n'est pas libre. L'atome, il est indéterminé dans l'espace et dans le temps, pour des raisons d'ailleurs qui touchent à la physique. L'espace, c'est le vide ne peut ni agir ni pâtir. Et donc, il est normal, au cœur même de l'atomisme épicurien, d'être indéterminé dans l'espace, puisque l'espace ni n'agit ni ne pâtit. Et indéterminé dans le temps, puisque le temps, c'est l'accident des accidents pour Épicure, mais que les atomes étant immuables n'ont aucun accident. Si bien que ce que Lucrèce nous amène à penser et qui est très proche de certaines intuitions ou développements de la physique contemporaine, c'est que l'atome n'existe ni dans l'espace, ni dans le temps, au sens où nous que sauvons-nous par expérience l'espace et le temps. Mais il est intégralement matériel. Nous sommes libres, l'atome ne l'est pas. Pourquoi ? Parce que l'atome n'a pas de conscience, aucune conscience. L'atome n'a pas de désir, aucun désir. Et donc, il n'y a pas de liberté de l'atome. Mais la liberté en nous, c'est un effet de structure qui s'explique par le hasard, par l'indéterminisme des atomes. Et cette théorie-là, moi, je la trouve extrêmement profonde. Encore une fois, non pas pour sauver je ne sais quel libre arbitre absolu, mais pour rendre raison de notre expérience. Notre expérience, c'est qu'il n'est pas vrai que nous sommes intégralement déterminés par la chaîne des causes passées. Du moins, c'est ce que dit Lucrèce. Ça n'est pas, encore une fois, ce que dirait Spinoza.
L'engeance redoutable des animaux féroces, ennemis du genre humain sur la terre et les mers, pourquoi la nature la nourrit-elle? Pourquoi les saisons portent les maladies? Pourquoi rôde la mort précoce? Et l'enfant, comme un marin par les flots cruellement rejeté, il gît par terre, nu, incapable de parler, sans secours pour vivre, dès qu'aux rives du jour la nature en travail hors du ventre maternel la vomit. De vagissements lugubres, il emplit l'espace, juste plainte quand la vie lui réserve tant de maux. Les divers animaux, bétail et fauves, grandissent, mais ils n'ont pas besoin de hochets ni des soins d'une tendre nourrice au babil caressant, de vêtements variant au gré des saisons, d'armes enfin, ni de hauts remparts. Ils n'ont besoin pour défendre leurs biens. La terre, la nature inventive enfante pour eux toute chose à foison. Dans ce traité donc de la nature de Lucrèce, il semble distinguer, c'est le sens du texte que je viens de lire, le sort réservé aux humains et le sort, l'évolution que suit la nature elle-même. Il semble qu'il y a ici une discontinuité, puisque le malheur qui frappe les humains n'équivaut pas au cours, au déroulement de la nature elle-même. Il y a ici une distinction entre l'histoire d'un côté et la nature de l'autre.
Oui, il y a une distinction, et bien sûr, Lucrèce a raison de la faire, sauf que l'histoire fait partie de la nature. Alors bien sûr, nous mourons, les atomes ne meurent pas. Mais notre monde mourra aussi. Et donc tout dépend quand on parle de la nature. Si on parle de la nature universelle, qui bien sûr est éternelle parce que les atomes et le vide sont éternels, ou si l'on parle de la nature que nous connaissons, nous, le monde, la terre, les arbres, les oiseaux, que sais-je, qui eux mourront aussi. Et de ce point de vue, la souffrance n'est pas réservée à l'humanité. Lucrèce est très sensible au fait que l'humanité, au fond, n'est qu'une espèce animale comme une autre. Et donc nous souffrons comme souffrent les animaux. Simplement, comme dira l'Ecclésiaste, ou comme a dit avant Lucrèce, d'ailleurs l'Ecclésiaste, plus de savoir, plus de douleur, si vous voulez. J'évoque l'Ecclésiaste parce qu'il y a une proximité, j'y pensais en écoutant le passage que vous avez lu, entre la sensibilité, elle aussi assez sombre et tragique, et pourtant hédoniste de l'Ecclésiaste et celle de Lucrèce. Vous savez que Renan évoquait au XIXe siècle l'épicurien désabusé qui a écrit l'Ecclésiaste. Et Marcel Conche a écrit l'Ecclésiaste, ce livre épicurien. C'est vrai qu'en quelque chose, l'Ecclésiaste défend des thèses épicuriennes, à la fois de pessimisme mais aussi d'hédonisme, au fond, puisqu'on va mourir, autant jouir le plus possible avec la femme que l'on aime, dit l'Ecclésiaste. Sauf que chez l'Ecclésiaste comme chez Lucrèce, on va trouver la chose affirmée dans sa plus grande noirceur. Au fond, l'Ecclésiaste, ça n'est pas un livre épicurien, c'est un livre lucrécien.
Et donc, vous maintenez la distinction entre les deux, puisque vous dites que Lucrèce reprend mot pour mot l'appareil conceptuel d'Épicure, mais qu'il en change la tonalité. Donc, lorsque vous dites lucrécien, vous voulez dire qu'il a cette tonalité plus tragique et mélancolique.
C'est comme une musique. Si vous voulez, vous prenez une partition écrite en ut majeur pour violon seul, et vous la transposez en ut mineur pour violoncelle. Et donc, ça va être plus sombre, parce que la tonalité mineure est toujours plus sombre que la tonalité majeure, et ça va être deux octaves en dessous, parce qu'on passe du violon au violoncelle. Bah, c'est ça. Alors qu'en même temps, la structure mélodique est exactement la même. Il n'y a pas une seule différence. Mais à l'oreille, ça sonne très différemment. Ça sonne plus sombre, plus triste, plus mélancolique, plus romantique, si l'on veut. Eh bien, Lucrèce, c'est ça. Il n'y a aucune différence philosophique. C'est une transposition littérale de toutes les thèses, sauf que ça n'est pas dans la même tonalité, si j'ose dire. Ça n'est pas joué par le même instrument. Et donc, conceptuellement, c'est vraiment de l'épicurisme. C'est du pur épicurisme. Pour ce qui est des affects, comme dirait Spinoza, ça ressemble à de l'épicurisme, ce n'est pas tout à fait de l'épicurisme. Et c'est ça la singularité et le génie de Lucrèce. Moi, je vénère et Épicure et Lucrèce. Il m'est arrivé de dire qu'Épicure était notre maître et que Lucrèce est notre frère et notre ami.
Juste dernière question pour terminer cette émission, André Comte-Sponville. Est-ce qu'on ne peut pas dire que cette tonalité noire et mélancolique de Lucrèce est une preuve de l'impossibilité de le mettre en œuvre, l'optimisme et l'hédonisme épicurien?
Pas forcément, parce qu'inversement, la lumière d'Épicure est la preuve que certains peuvent le mettre en œuvre. Hein. Et moi, quand je lis Épicure, je suis fasciné par cette lumière, par ce bonheur, par cette sérénité. Il se trouve que pour ma part, j'en suis incapable. Alors, tant mieux pour ceux qui sont plutôt du côté d'Épicure, tant pis pour ceux qui sont plutôt du côté de Lucrèce. Mais pour ceux-là dont je suis, c'est bien que Lucrèce ait existé et écrit lui aussi.
Say one thing and do another, and if it's all right, I'd kinda like to be your lover. 'Cause when you're with me, I can't help but be so desperately, uncontrollably happy. And hey, I'm not the kind to fall in love without good reason. And if that's a crime, then baby I'm committing high treason. 'Cause when you're with me, I'm absolutely and totally quiet, uncontrollably happy. Hey, I'm not so blind that I can't see where we're all going, and it's no fault of mine if you. Just as long as we are together forever, I'll never be anything other than happy. Yeah.
Merci André Comte-Sponville d'être venu nous parler de Lucrèce aujourd'hui.
Merci à vous.
De vous, on peut lire Le miel et l'absinthe. Donc, on aura compris le sens de ce titre à l'écoute de cette émission. On trouve ça en livre de poche. Et je renvoie également les auditeurs au De Rerum Natura, donc de la nature, l'ouvrage de Lucrèce. On le trouve dans différentes traductions. Vous en proposez une traduction inédite d'ailleurs dans votre livre, André Comte-Sponville. Mais il y a notamment celle en Garnier Flammarion et également celle, l'édition récemment proposée par Elisabeth de Fontenay aux Belles Lettres.
Don't be surprised. If millions die in plague and murder, true happiness lies beyond your fries and happy burger.
Il est 10h50 dans quelques secondes sur France Culture. C'est l'heure de retrouver le journal de la philosophie avec vous, François Nodelman. Bonjour.
Bonjour Adèle. Tony Judd était un intellectuel important aux États-Unis, historien et écrivain. Il intervenait fréquemment dans le débat public avec des prises de position courageuses. Il est décédé l'année dernière et paraît en français aujourd'hui un livre manifeste « Contre le vide moral » paru aux éditions Héloïse d'Ormesson. Pierre-Emmanuel Dauzat, bonjour.
Bonjour.
Je vous reçois aujourd'hui pour ce livre. Vous connaissiez bien l'œuvre de, vous connaissez bien l'œuvre de Tony Judd et vous venez de traduire donc ce texte de 2010, un texte de la fin.
C'est un texte de la fin. C'est un texte dans lequel il a mis ses dernières forces. C'était à l'origine une conférence qu'il avait tenue à faire publiquement sur son fauteuil roulant, alors qu'il était déjà gravement atteint par sa sclérose latérale amyotrophique, et c'était un discours qu'il a voulu politique et public, à la fois à destination des États-Unis et à destination de l'Europe.
Pierre-Emmanuel Dauzat, est-ce qu'on pourrait rappeler quelle est la figure intellectuelle de Tony Judd, sa carrière et ses engagements ?
Alors, sa carrière, c'est un intellectuel anglais au départ, né de la guerre, qui a fait un long séjour en Belgique et en Europe. C'est un élève de Raymond Aron, venu de la gauche extrême au départ, notamment du trotskisme. Comme beaucoup d'autres, il a fait ses études donc en Europe. Il était fasciné par l'histoire du Parti socialiste, il était fasciné par l'histoire de la gauche et du marxisme dans sa version française. Et donc, c'est là où l'importance et l'influence de Raymond Aron est importante. Son premier livre a été consacré à l'histoire du Parti socialiste. Et jusqu'au bout, il sera resté fidèle aux valeurs qu'il a découvertes dans les années 50 et 60 en Europe, avec trois personnages. Donc, Raymond Aron, dont on a parlé, dont il était membre de cette école des Aroniens de gauche extrêmement importante. Albert Camus, dont il a toujours admiré le courage des positions en Algérie et sur la peine de mort, et Léon Blum, dont il a fait l'espèce d'incarnation du socialisme réaliste et de la social-démocratie, et dont il pensait que le Parti socialiste français l'avait trop vite enterré.
La notion d'intellectuel n'a pas exactement la même signification des deux côtés de l'Atlantique. Alors, qu'est-ce que ça signifie prendre des positions aux États-Unis quand on a son mot à dire sur la politique aussi bien intérieure qu'extérieure ?
Intellectuel est un sens qui n'a quasiment aucun sens aux États-Unis. Et pour que le mot ait un sens, il faut rajouter public.
Oui, oui.
Et il se trouve que il avait été horrifié par la politique de Clinton, dont il pensait que c'était un libéralisme à peine déguisé. Et l'un des détonateurs de cette réflexion et de ce livre qui est le prolongement d'une conférence publique, c'était une espèce de ricanement de notre président de la République qui disait « Ha ha ha, Obama est en train d'essayer de faire aux États-Unis ce que nous avons fait depuis 60 ans ». Et le sentiment de Tony Judd, c'était que le président de la République aurait mieux fait de ne pas ricaner dans la mesure où lui était en train de démolir ce que Obama essayait de construire. Et c'est là où il y a tout le paradoxe de la pensée de Judd. Et le même président de la République française ricanait en disant « Ah, les socialistes sont devenus conservateur. » Et il explique, et c'est l'un des fils conducteurs les plus passionnants de ce livre, c'est pourquoi faut-il que la gauche socialiste, la gauche réformiste, social-démocrate, soit aussi conservatrice. Et il dit, on n'est pas progressiste quand on démolit systématiquement ce que nos ancêtres ont construit de meilleur.
Ce livre a pour sous-titre « Restaurons la social-démocratie ». Mais c'est un vieux mot, ça, en tout cas pour les Européens. En quoi y a-t-il ici une possibilité de réenchanter cette notion.
C'est un vieux mot, mais comme aurait répondu Tony Judd, la chose est encore nouvelle. Et il fait le parallèle avec le marxisme. Il dit que le marxisme était encore plus vieux. Il a fallu un siècle pour qu'il porte ses fruits et qu'il charrie aussi ses horreurs. Il est vrai. Dans le cas de la social-démocratie, c'est d'abord un discours. Sa réalité au pouvoir est extrêmement brève. Ses acquis, en revanche, sont relativement durables. Ils ont 60-70 ans. Il faut dire que ce que la social-démocratie a apporté de meilleur en Europe a été conçu dans les périodes les plus catastrophiques, où la dette anglaise était sans commune mesure avec ce qu'elle est aujourd'hui, où les finances publiques étaient dans un état lamentable, où tout le pays était en état de guerre. Donc, on ne pouvait pas financer la sécurité sociale et on l'a fait. Donc, pour lui, la social-démocratie reste une idée neuve en Europe. Ce qui a changé, ça n'est pas la réalité, c'est notre manière de penser et c'est une espèce de privatisation à la fois des intérêts, une privatisation de l'espace public et une privatisation du discours public. Pour lui, on ne veut plus entendre ce que la social-démocratie a apporté et peut apporter de nouveau parce qu'on ne veut plus accorder de crédit aux mots que la social-démocratie avait introduit dans l'usage courant politique.
Ce texte commence par un guide des égarés, on voit la référence évidemment à Maïmonide, mais il dit que c'est un livre pour les jeunes des deux côtés de l'Atlantique. Et effectivement, c'est un livre qui donc est assez simple d'accès, donc donne à comprendre ce que c'est que l'État-providence, en même temps la possibilité de préserver les libertés. Alors, c'est une manière ici de fin de vie aussi pour en quelque sorte délivrer un message un peu manifestaire.
C'est à la fois ça, mais c'est d'abord un constat extrêmement posé et extrêmement lucide, parce que Tony Judd n'aurait pas imaginé que solidarité, socialisme étaient devenus des gros mots dans le langage politique français. Le constat, il est extrêmement lucide et il est imparable. C'est simplement que les inégalités sont redevenues au début du XXIe siècle ce qu'elles étaient au XIXe, et que tous les fléaux sociaux qui accompagnent les inégalités extrêmes sont aujourd'hui là. Or, ce que l'on fait dans l'ensemble de l'Europe, c'est aggraver ces inégalités au nom de l'efficacité de l'investissement, etc. Et il n'y a plus du tout de prise en considération des éléments sociaux dans les calculs économiques. Donc, il y a un discours économique qui est devenu dominant. Ce discours économique est devenu dominant alors qu'il est devenu complètement inefficace. Et ce que l'on oublie et ce que rappelle fort opportunément Tony Judd, c'est que l'époque que l'on appelait, sans pudeur d'ailleurs, les Trente Glorieuses, sont une époque où c'est un discours social qui était dominant. Et donc la réintroduction des valeurs sociales de solidarité et de sécurité sociale était pour lui l'un des principaux facteurs de la croissance. Et c'est avec ce discours-là qu'il faudrait renouer aujourd'hui.
D'ailleurs, il y a un passage tout à fait intéressant où il parle de la communauté, la nécessité d'une communauté qui soit fondée forcément sur une confiance. Mais pour qu'il y ait la confiance, il faut une certaine équité dans la société.
Voilà, c'est ce qu'il montre. Alors là, il le fait non pas à la manière de Alain Perfit ou de Francis Fukuyama, en faisant une espèce de totem du mot confiance, mais simplement il explique que la confiance c'est une réalité sociale et c'est une réalité qui a une dimension sociologique. Quand les inégalités de revenus passent de 1 à 10 à 1 à 100, il n'y a plus de confiance possible parce que les gens ne parlent plus du tout le même langage.
Pierre-Emmanuel Doza, merci. Je crois qu'il faut effectivement découvrir, redécouvrir pour ceux qui le connaissent déjà, l'œuvre de Tony Judd et particulièrement ce texte « Contre le vide moral, restaurons la social-démocratie » qui paraît aux éditions Héloïse d'Ormesson. Vous pouvez retrouver le journal de la philosophie sur le site franceculture.fr.
Merci François. De l'insoutenable légèreté du politique au Dererum Natura, c'était le poème du jour. Ainsi s'achèvent les nouveaux chemins, mais ne vous en faites pas, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine sur Épicure. Demain, je recevrai à nouveau André Comte-Sponville qui viendra vous parler cette fois de Montaigne, le grand lecteur d'Épicure. Si vous voulez réécouter cette émission, c'est possible en vous rendant sur le site internet franceculture.fr à la page des Nouveaux Chemins, où vous retrouverez également toutes les indications bibliographiques concernant l'émission du jour, et où vous pourrez également podcaster, télécharger cette émission pour l'installer sur votre ordinateur ou sur votre lecteur MP3 afin de pouvoir l'écouter où vous voulez, quand vous voulez. France Culture, il est 10h59. Dans un instant, Culture Monde, Florian Delorme.